Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, face à une question de santé, beaucoup ont le réflexe Internet. Inscrire un symptôme, le nom d'une maladie ou carrément poser une question à un moteur de recherche et attendre la réponse qui informe et surtout la réponse qui rassure. Mais la plupart du temps, le résultat obtenu, eh bien, c'est exactement l'opposé, exactement l'inverse. Effets secondaires, cas extrêmes, mortalité, rumeurs et désinformations sont au rendez-vous. Et le ressort de cette consultation virtuel souvent beaucoup plus inquiétant que l'on ne l'était avant de confier ses interrogations à la machine. Douleur, fièvre, symptômes, notices d'utilisation, mieux vaut tout simplement se tourner vers un professionnel de santé lorsque l'on se pose une question qui concerne sa propre santé ou celle de quelqu'un de son entourage. Alors, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Posez vos questions, laissez-nous un message sur la page Facebook de l'émission. Appelez-nous 33 84 22 75 75. Un médecin est là à votre écoute pour vous répondre.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce médecin, c'est vous, docteur Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour.
Médecin urgentiste, président de SOS Médecins Dakar. Je disais tout à l'heure, poser des questions variées sur des problèmes de santé du quotidien. On décrit les douleurs, on explique une montée de fièvre, on comprend, on essaye de décrypter une notice d'utilisation. Et justement, du côté des médicaments, eh bien, dans l'actualité récente, docteur Diop, en France, l'agence du médicament a proposé, c'est en projet, de ranger très prochainement dans les pharmacies plusieurs produits derrière le comptoir. Non plus comme ça dans les rayons à la portée des consommateurs. Ces médicaments, eh bien, ce sont parmi les plus vendus, les plus connus, les plus communs. Aspirine, paracétamol, produits à base d'ibuprofène, en gros, on va dire des antidouleurs. Pourquoi les changer de place? Qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, si on prend le paracétamol à dose normale, on va se retrouver à traiter les douleurs et donc il n'y aura aucun souci. Dès que on monte, et quelquefois, vous savez, vous avez mal, donc vous augmentez la dose, vous en prenez deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, on se retrouve à avoir des lésions hépatiques qui peuvent être une vraie intoxication, et on peut, lorsque la dose est majeure, se retrouver à avoir un foie qui est totalement détruit.
Et ça peut se passer rapidement, le foie qui s'abîme comme ça?
Si on a la dose qui détruit le foie, à ce moment-là, une fois que c'est enclenché, si on ne donne pas l'antidote, environ, ça va durer sur à peu près moins d'une semaine, vous avez votre foie qui va être détruit, on se retrouve en insuffisance hépatique, et après il n'y a plus que la grève de foie.
On va dire que c'est comme un poison pour le foie.
Ah oui, ça détruit le foie. Mais alors qu'en dose normale, il n'y a aucun souci. Et il ne faut pas non plus en faire une phobie, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Par exemple, l'aspirine, vous parliez de l'aspirine, à dose importante, on va se retrouver à avoir un risque d'ulcère à l'estomac. On fait un trou dans l'estomac. C'est la même chose avec l'ibuprofène. Et en plus, il y a des choses qu'il ne faut pas associer. Si on associe de l'aspégique, de l'aspirine et de l'ibuprofène, c'est mauvais aussi. Ce sont deux anti-inflammatoires.
Alors j'ai envie de dire, pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui les autorités de santé en France s'en inquiètent alors que ça fait déjà longtemps que ces produits en fait sont à portée de main des consommateurs?
Parce qu'en fait, il y a quand même manifestement, entre autres justement, vous en parliez au début, avec l'automédication et Internet. En fait, finalement, les gens de plus en plus, avant vraiment, les gens allaient voir le médecin et voilà, ne prenaient pas de décisions comme ça autonomes. Maintenant, il y a de plus en plus de défiance. Les gens, avec justement le jugement très variable qu'on retrouve, je crois que vous avez déjà fait des émissions sur ça, où finalement, les gens ils pensent que les autres, ils pensent que les médecins font partie de lobbies, font partie de ceci, de cela, et en fait vont décider de prendre eux-mêmes les traitements.
Et pourtant, ces médicaments ont donc des effets actifs, peuvent avoir des effets secondaires. Ça montre justement qu'aucun médicament n'est anodin et ça pose vraiment la question du mauvais usage, du mauvais dosage.
Oui, complètement. C'est vraiment, vous savez, si quand quelqu'un en fait bac plus 10 en médecine, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, on nous apprend les pathologies et comment on les traite. C'est pas pour rien. Et les médicaments, bien évidemment, quels qu'ils soient, ont des effets secondaires potentiels. Et un médicament, c'est pour une maladie particulière. Et il ne faut pas considérer que des médicaments sont anodins.
Donc ça veut dire qu'en termes de dosage, ce qui compte, ça va être d'abord le patient, par exemple son poids, et puis aussi la fréquence avec laquelle on va prendre ce médicament, et puis sur quelle durée. Donc il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte.
Oui, la première chose, c'est la bonne indication.
Est-ce qu'on en a besoin ?
C'est la première. Voilà, exactement. Un antibiotique, on peut être amené à le donner, c'est pas le bon sur cette maladie-là, et du coup, finalement, il n'agira pas sur le germe. Ça ne servira à rien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un encore, je reprends par exemple l'exemple de l'antibiotique. Quelle est la dose par rapport au poids ? Exactement. Donc, en fait, si je donne pas la bonne dose, eh ben, de toute façon, ça va faire des sélections de germes. Encore plus grave. Et donc, en fait, vous allez avoir des germes qui vont résister à cet antibiotique-là. Et ensuite, c'est la durée. Donc rien que sur un simple exemple comme l'antibiotique, vous voyez que chaque chose est précise. Et selon les maladies, le même antibiotique peut être donné 5 jours, 8 jours, 20 jours, 2 mois, 3 mois, selon l'indication. Donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment, il y a des raisons à cela.
Et puis il peut y avoir des effets secondaires, y compris sur la prise d'aspirine, y compris sur la prise d'ibuprofène, par exemple, en cas de varicelle, c'est déconseillé.
Quand on met un anti-inflammatoire sur une maladie virale, elle flambe. On a notre immunité. Notre immunité, elle sert à lutter contre le germe. Donc là, c'est un virus. Et ce virus-là, lorsqu'on met un anti-inflammatoire, on empêche nos anticorps de lutter contre.
On a une illustration concrète. Il y a Boris du Cameroun sur Facebook. Il nous dit « Je prends plus de 28 comprimés par semaine contre la douleur dentaire ». Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur ma santé ? Il ne nous dit pas depuis combien de temps, mais 28 comprimés, ça veut dire qu'il est en train de se traiter, très certainement de se traiter un problème de dents avec des antidouleurs.
Ah oui, là, on est typiquement dans l'exemple où finalement, si, bien évidemment, il doit aller voir un dentiste, mais en fait, il peut y avoir, soit ça peut être une carie, mais surtout, la crainte, c'est qu'il y ait un abcès dentaire sous-jacent et qu'au bout, il va se retrouver à avoir non seulement la destruction de cette dent, mais aussi au niveau de la gencive, avec des complications qui peuvent même être d'ordre général. C'est-à-dire que le germe peut migrer et se fixer, par exemple, sur les valves cardiaques et entraîner derrière un problème beaucoup plus grave.
Donc, Boris, s'il nous écoute aujourd'hui, Boris du Cameroun, consultation dentaire rapidement, parce que si ça dure depuis des semaines, c'est qu'il faut vraiment agir. Une autre nouveauté qui concerne la France, mais qui peut concerner d'autres pays, demain va commencer la campagne de vaccination contre la grippe. Et il y a quelque chose de nouveau cette année, c'est que désormais, ce ne sont plus simplement des infirmières ou des médecins qui peuvent vacciner, mais également les pharmaciens. Qu'est-ce que ça change ?
Alors, est-ce que vous savez que hier... Je dis bien hier, j'ai d'ailleurs encore un petit peu mal, je me suis fait vacciner par une pharmacienne, ici.
Donc vous avez choisi d'aller vers la nouveauté ?
En fait, c'est surtout que voilà, j'avais le vaccin, j'allais l'acheter, je me suis dit, bon, bah, il paraît que maintenant c'est possible avec les pharmaciens, je le connais, je lui ai montré comment, parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc je lui ai dit, vous faites ça.
Le cobaye.
Elle-même était un peu inquiète, je lui ai dit, non, c'est très simple, faites-le comme ça, et voilà. Donc... voilà, j'ai été le cobaye du système. Alors, je sais qu'il y a des médecins qui disent « Oui, non, c'est un acte médical et tout. » Bon, honnêtement, la vaccination qui est en sous-cutanée contre la grippe, elle peut être faite par une infirmière. Normalement, on pourrait imaginer par une infirmière, par un médecin, par une pharmacienne aussi, à partir du moment où on sait à qui on le fait. D'accord. Et donc, pour moi, le geste de le faire par la pharmacienne ou le pharmacien, ce n'est pas un problème. Et la raison, c'est parce que en France, il n'y a plus d'accès facile aux médecins. Qu'il y a un vrai problème pour avoir un rendez-vous. Si finalement votre prochain rendez-vous c'est dans un mois et demi, il y a déjà largement le temps d'avoir fait éventuellement la grippe qui va bientôt arriver. Donc la raison, elle est celle-là. Elle est purement fonctionnelle. C'est comment arriver être plus efficace.
Voilà. Tout simplement.
Tout simplement. Maintenant, sur le problème des vaccinations, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle un peu, mais Franchement, quand je vois ces discussions sur est-ce que je dois faire la vaccination contre la rougeole, est-ce que je dois faire la vaccination contre le tétanos, là.
Mais qui sont quand même sur certains cercles, parce que ce qu'on a vu, c'est quand même, on a rendu la vaccination obligatoire. Avec les 11 vaccins dans les voilà. Premières années de la vie en France pour les enfants, et les gens n'ont pas été résistants. Ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. Il y a une bonne couverture à ce niveau-là.
Pour moi, c'est vraiment un problème de pays riches. Vraiment, les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être dans des pays où, ça y est, les vaccinations ont été faites et que on peut se permettre de raisonner comme ça parce que tous les gens autour de vous sont vaccinés. C'est-à-dire que le voisin, la voisine, les enfants qui sont avec vos enfants sont vaccinés. Du coup, c'est ça qui vous protège. Mais quand on voit l'évolution dans le temps, ce qu'a généré dans la chute des maladies infectieuses, donc de la mortalité, on est à presque 30% par rapport grâce à l'hygiène. Ensuite, on est presque à 20% grâce à la vaccination. Et les antibiotiques, c'est à peu près encore 20%. C'est-à-dire que, et après, tout le reste, hein, tout ce qui a suivi, ce n'est qu'à la marge. Après, on ne fait qu'améliorer un petit peu. Mais ce qui a amélioré la mortalité dans le monde, c'est vraiment ça. Donc, il y a des choses, il faut arrêter. Maintenant, de voir s'il y a tel ou tel effet secondaire dans tel cas précis ou chez tel patient qui a telle pathologie, ça peut exister.
Mais ça se discute encore une fois dans un cabinet médical
exactement.
Et pas sur un forum sur Internet.
Exactement.
Alors tout de suite, on va prendre les auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Allô ?
Premier auditeur en ligne, le Gabon, Libreville, Elmer, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes à votre écoute, le docteur Diop est avec vous, allez-y, posez votre question.
Oui, j'avais vu des enfants de 4 ans qui avaient généré du pétrole et du coup on avait donné du lait pour la prévention d'abord, pour ne pas que l'enfant s'infecte. Donc, c'est ce qu'on a au quotidien lorsqu'on boit quelque chose ici à Libreville. Mais moi, je voulais savoir, la question que je voulais poser au docteur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pourra faire lorsque l'enfant génère un produit dangereux, exemple comme du pétrole.
Voilà. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser, Elmer. Où est-ce que vous rangez vos produits dangereux à la maison?
Oui, on le rangeait d'abord, on le met dans des bouteilles et puis dans des placards, mais là on a essayé un peu de mettre un peu plus haut parce que après l'incident de l'enfant. Oui.
Et dans des bouteilles comment? Vous les mettez dans des bouteilles dans lesquelles vous mettez d'autres jours, des boissons?
De l'eau. Oui, c'est comme ça qu'on nous vend ça ici.
C'est comme ça qu'on le vend, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre sur cette bouteille, je sais pas, un dessin avec une tête de mort ou quelque chose de bizarre pour essayer de montrer à l'enfant qu'il y a un problème, si jamais il tombe dessus, non?
Oui, on a essayé de mettre maintenant à chaque fois donc pétrole, javel et tout le reste, mais un peu plus rangé, un peu plus haut, pour que l'enfant n'a plus accès à ces produits-là.
Docteur Massouma Sassoun Diop, qu'est-ce que vous voulez dire à Elmer déjà? Que faire, la question, que faire lorsqu'un enfant avale ce type de produit chimique?
Alors, effectivement, après on parlera de la prévention, mais la première des choses, lorsque quelqu'un avale, quel que soit, alors ça c'est vraiment important, quel que soit le produit chimique, il faut savoir que d'abord le lait n'a jamais été un médicament. Donc, on ne doit rien faire avaler à quelqu'un qui a pris un produit, quel qu'il soit chimique. C'est la diète complète et on doit amener vers le gastro-entérologue qui doit faire une fibroscopie pour aller voir les lésions. Mais je précise bien, lorsque ce sont des produits qui vont être acides ou basiques, donc qui vont être dangereux de ce point de vue-là. Maintenant, lorsque c'est un produit comme le pétrole, il n'entraîne pas, il y a des petites, mais vraiment infimes, en lésions locales. Le vrai problème du pétrole, c'est que ça entraîne d'une part, une sorte d'anesthésie au niveau du carrefour entre l'œsophage et la trachée. Et donc, après, on peut se retrouver à, lorsqu'on avale, on essaye d'avaler de l'eau, mais en fait, ça passe de l'autre côté, ça passe dans les poumons. Ça veut dire qu'en fait, on met la personne du coup, pour éviter cela, à la diète complète, d'une part, et d'autre part, ça peut entraîner aussi des lésions au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, si on en a avalé une grande quantité, des lésions qui peuvent être neurologiques avec au bout un coma. Donc on a deux choses différentes sur le pétrole, c'est celle-là, la fausse route et le coma. Du coup, la seule chose à faire, c'est surveiller la personne, la faire consulter et surtout ne rien faire avaler. On peut éventuellement, lorsque le produit est acide ou basique, rincer juste la bouche et bien sûr tout ce qui est à l'extérieur. Mais rien faire avaler et surtout pas de lait.
Vous savez d'où vient justement ce mythe du lait anti-poison? Parce que c'est partout dans le monde, on a entendu, c'est des histoires de, on va dire, de grand-mère, que le lait, quand on avalait un médicament ou un produit dangereux, c'était bon. Pourquoi?
Mais oui, les gens ont pensé que ça tamponnait. Alors il y a une chose aussi, et c'est peut-être aussi en liaison avec ça, quand vous prenez un produit acide, enfin, ou simplement quand vous avez de l'acidité gastrique, si vous buvez le soir, hein, vous avez ça, il y a des remontées gastriques. À la limite, là, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le prendre, voire même de la crème liquide. Lorsque vous avalez ce lait froid ou la crème liquide,
ça soulage,
mm-hmm. un petit peu comme un antiacide. Mm-hmm. Donc, c'est probablement, et puis il y a le côté aussi
rassurant.
Et puis le lait, c'est vraiment considéré comme quelque chose de très neutre. Les gens en mettent sur le corps, en mettent un petit peu partout. Donc, en fait, c'est pour ces raisons-là.
Et puis le deuxième point avec Elmer, bien sûr, c'est la prévention.
Alors, l'autre élément, vous en avez parlé, c'est clair, net. La première chose, c'est d'éviter que ça se passe. Et pour ça, tous les produits doivent être non seulement mis en hauteur, et il n'y a rien de plus dangereux que de les mettre dans des... Il faut acheter la bouteille d'origine, et non pas, là, comme vous l'avez fait, dans une bouteille d'eau. Et forcément, l'enfant, pour lui, une bouteille d'eau, c'est une bouteille où on boit. Et même la tête de mort, un enfant, par exemple, de 1 an ou de 2 ans, il ne sait pas ce que c'est une tête de mort. Donc, c'est vraiment de ne pas mettre dans une bouteille à usage alimentaire un produit chimique, et dans tous les cas, les mettre très, très, très haut.
Et le problème, c'est que c'est comme ça que c'est vendu aussi souvent au marché.
Oui. Et il y a des bouchons anti où il faut une force très précise en appuyant pour arriver à le dévisser. Et c'est l'autre sécurité qui est majeure par rapport à ça.
Voilà, Elmer, pour les réponses à vos questions. On vous remercie beaucoup de votre appel. On vous souhaite une excellente journée à Libreville. On part pour la République démocratique du Congo, Lubumbashi. Landry avec nous. Bonjour Landry.
Oui, bonjour Madame Caroline. Bonjour Docteur Mamadou.
On vous écoute, allez-y.
Oui, j'avais une préoccupation. Il y a 4 ans que j'ai un problème avec mon épaule droite. Donc, l'avant-bras, l'os de l'avant-bras et l'os du clavicule. En voulant jeter une pierre, l'os avait changé de direction. L'os avait claqué. J'avais senti le claquement au niveau de l'épaule. Et l'os avait changé de direction en voulant jeter la pierre. Et alors j'avais fait un effort de remettre l'os en place, et l'os était rentré en place. Et après un certain temps, moi je me suis dit que c'est un problème qui est survenu et ça allait terminer. Et après un certain temps, ce problème ne fait que revenir. Lorsque je fais un mouvement fort, l'os ne fait que changer de direction. Et je ne sais pas, je suis allé à l'hôpital, on a fait la radiologie, et les docteurs m'ont dit qu'il n'y a absolument rien. Mais ce problème-là ne fait que retourner. Et ça se répète lorsque je fais des mouvements forts. Et je ne sais pas, j'ai eu à poser des questions aux autres docteurs qui m'ont dit que c'est un problème d'entorse. Et je ne sais pas, c'est dû à quoi? Et ce problème aura-t-il fin ou bien c'est resté comme ça éternellement?
Landry, vous décrivez très bien ce qui se passe. J'ai juste une petite question, est-ce que c'est douloureux?
Oui, oui. En tout cas, quand l'os change de direction, en tout cas, c'est très, très, très douloureux. Même pendant le sommeil, ça peut changer de direction. Et vous savez, lorsque une personne est en plein sommeil et que cela surgit, en tout cas, il y a le battement du cœur, il y a des transpirations, donc vous avez peur. En tout cas, vous devez vous efforcer pour remettre l'os en place. Et je ne sais pas, il y a une solution pour ça?
Alors, docteur Massamba, je corrige, c'est pas Mamadou, c'est Massamba. Sassoun Diop qui vous répond tout de suite.
Alors, effectivement, en fait, ce que vous êtes en train de faire, je suis sûr qu'il y a justement 4 ans ou avant, vous avez fait une première luxation d'épaule. Donc, l'épaule est sortie, l'humérus est sorti de sa cavité. Et à ce moment-là, vous n'avez pas été immobilisé pendant 3 semaines, j'en suis à peu près sûr, ou 1 mois. Ce qui fait que les tendons, les ligaments ne sont pas revenus à la place qu'ils devaient avoir. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle, vous avez une laxité au niveau de l'épaule, et ce qui fait que vous avez des luxations récidivantes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la deuxième fois, ça entraîne encore une plus grande distension des ligaments, Une troisième fois, une quatrième fois, et après, quasiment, même en disant bonjour, vous pouvez, le bras va rester, entre guillemets, dans le bras, dans la
ça
main de
sourire,
celui d'en
mais
face.
C'est douloureux.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle des luxations récidivantes. Maintenant, il est clair que même si on immobilisait pendant 3 semaines, 1 mois, ça ne reviendrait pas à sa taille normale. Vous êtes obligé, pour éviter ça, d'avoir une opération. On met ce qu'on appelle une petite butée, juste en dessous, hein, dans la cavité, on met un petit, voilà, vous voyez, comme une cale, pour empêcher la tête humérale de sortir de sa cavité. Aujourd'hui, il ne vous reste plus que ça pour arriver à ce que ça ne se passe pas, parce que de toute façon, ça va être de plus en plus. Hein.
Est-ce que c'est une opération simple qui peut se faire un petit peu partout ou pas?
Oui.
Parce que l'André est à Lubumbashi.
Oui, normalement.
Oui, c'est simple.
Alors peut-être est-ce qu'il devrait aller à Kinshasa, mais je ne pense pas. Je pense que même à Lubumbashi, ça peut se faire. C'est vraiment un acte chirurgical qui n'est pas très compliqué, mais maintenant, il faut que ce soit un orthopédiste qui sait le faire.
Et derrière, il y aura aussi une période de convalescence.
Il y a un petit peu de rééducation, non, mais surtout, on immobilise. Hein.
C'est ça, immobilisation.
On fait la butée, on immobilise, et puis ensuite, ça y est.
Landry, il y a un médecin qui vous a parlé d'opération? C'est quelque chose que vous avez envisagé?
Non, le médecin n'a pas eu à me parler d'opération. Il m'avait juste prescrit un médicament que je me rappelle le nom, le biprofénilde. J'avais eu à consommer ces médicaments. Bon, il n'avait pas proposé une opération, en fait.
Oui, bah, biprofénide au maximum. En plus, une fois que l'épaule est revenue, je pense que vous avez quasiment plus mal. Donc, c'est uniquement quand elle est sortie. Vous arrivez même quasiment à la faire revenir vous-même dans sa cavité. Et de toute façon, l'anti-inflammatoire sert juste ponctuellement, si vous avez mal, avec éventuellement du paracétamol, à arrêter la douleur. Mais ce qui empêchera la récidive, c'est de faire cette opération en mettant cette petite butée. Il n'y a plus que ça.
Voilà pour ce conseil, Landry. Bonne journée à Lubumbashi. On part pour l'autre Congo, pour Brazza, où nous sommes en ligne avec Gaïtsef. Gaïtsef, bonjour.
Bonjour, docteur.
C'est le docteur Diop qui est là à votre écoute. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonjour, docteur Diop.
Bonjour.
Je me suis fait bouler la peau une fois en faisant un petit déjeuner. Et ça m'a causé une plaie sur la peau. Donc, on m'avait conseillé de mettre la pâte dentifrice dessus pour éviter que la blessure s'aggrave. Mais jusqu'alors, il n'y a rien de l'évolution. Donc, je sens vraiment des douleurs au niveau de cette plaie. La plaie ne diminue jamais. Donc, je ne sais pas s'il y a un produit très efficace que vous pouvez me conseiller, puisque je ne suis pas allé à l'hôpital.
Gaïtsef, excusez-moi, elle est où cette plaie?
Oui, sur la hanche.
Et elle date de quand?
Ça fait déjà au moins 5 à 6 jours.
Ah, d'accord, 5 à 6 jours.
Donc c'est encore
que ce
assez récent.
Plus ancien. D'accord. Donc en fait, alors c'est sûr que la pâte de dentifrice ne servira à rien. Ça n'est pas le traitement d'une brûlure. La seule chose, c'est que ça peut donner l'impression, parce que déjà les gens ont l'impression que le dentifrice, comme c'est frais, comme si c'était un désinfectant. Ça n'est pas un désinfectant, même ça peut infecter une plaie. La deuxième chose, c'est que le principe d'une brûlure, pour que ça ne fasse plus mal, il faut l'isoler de l'extérieur du vent. Donc, quand on met la pâte de dentifrice, on peut avoir l'impression qu'après, ça va calmer. Mais ça n'est en aucun cas ce qu'il faut faire. À la phase initiale de la brûlure, au moment où elle se fait, c'est d'abord l'eau. On fait couler de l'eau, 10 minutes, c'est clair, sur la zone qui a été brûlée pour stopper la brûlure et pour pas qu'elle évolue donc vers un degré plus élevé. La deuxième chose, après, il faut faire selon... Est-ce que c'est un premier degré, un deuxième degré? Dès qu'il y a une cloque, c'est un deuxième degré. Donc, vu ce que vous me décrivez, je pense que la peau est partie, non?
Oui, oui.
Oui, voilà. Donc, c'est un deuxième degré au minimum. Il peut être superficiel ou profond. Est-ce qu'en dessous, c'est rose ou c'est blanc?
Oui, c'est devenu rose. C'est devenu rose.
Rose. Donc, c'est plutôt un deuxième degré superficiel. Tant mieux, parce que ça veut dire que ça cicatrise sans séquelles. Mais par contre, là, il ne faut pas que ça s'infecte. Parce que c'est ça le problème des brûlures, quand elles sont de petite taille comme ça, c'est l'infection. Quand elles sont de grande taille, c'est la déshydratation qui aussi va se rajouter en complication. Mais là, c'est vraiment, faites attention à l'infection. Donc pour ça, c'est d'abord une bonne désinfection.
Déjà bien tout ce qu'on a mis dessus,
voilà.
Comment ça
c'est
se passe?
En fait, l'eau et le savon déjà, vous nettoyez. Après, vous pouvez mettre, il y a des produits, idéalement c'est la flamazine. le produit qu'on met, c'est de la flamazine qu'on va mettre dessus, et on peut être amené selon la profondeur, c'est pour ça qu'il faut quand même que vous consultiez pour pas, parce que sinon ça va s'infecter, là ça va laisser des traces, et voire même ça peut avoir des complications plus graves, voir un médecin pour voir s'il doit faire des pansements, par exemple avec il y a des systèmes qu'on appelle du tulle gras, qui vont permettre de protéger le temps que ça rebourgeonne, ça doit être désinfecté, rebourgeonné, et ensuite cicatriser. Donc c'est pour ça qu'il faut voir à quel stade vous êtes actuellement avec un médecin qui va voir exactement ce qu'on met. Mais ce qui est sûr là, c'est qu'en fait, d'une part, c'est pas du dentifrice, que d'autre part, il faut vraiment faire un soin local précis qui est pas compliqué, hein, mais il doit être précis. Est-ce qu'on vous êtes la désinfection, elle est sûre, et la couverture, faut voir à quoi actuellement faut la faire fonction de la profondeur.
Gaïtsef, est-ce que vous pouvez aller voir un médecin justement pour lui montrer votre plaie, votre brûlure?
Oui, donc là je vais. Mais il n'y a pas d'autres médicaments ou bien une autre solution, peut-être ici,
Par téléphone, on ne peut pas vous donner comme ça un nom de médicament. On vous donne des conseils, ce n'est pas une consultation. C'est pour ça qu'il est important de. S'il y a une inquiétude particulière, avant de mettre un produit, il faut le montrer en voyant la plaie, le médecin pourra l'évaluer.
Il faut vraiment voir la profondeur et le type s'il y a une infection ou non. En fait, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'infection, c'est juste un pansement simple, d'accord, avec de la flamazine. Si jamais il y a une infection un petit peu plus profonde, on peut même être obligé de vous mettre sous antibiotiques. Et bon, je ne pense pas, si c'est un troisième degré, est-ce que vous, au milieu de la brûlure, est-ce qu'il y a un endroit qui semble, par exemple, cartonné et qui fait mal? Qui fait pas mal, pardon, où vous n'avez pas de douleur.
Non.
D'accord,
non,
donc ça va. Parce que là, par contre, c'est carrément, c'est la greffe. Hein. Donc là, vous êtes vraiment sur du deuxième degré qui cicatrise très bien. C'est vraiment bonne désinfection, couvrir le temps que ça bourgeonne, et dès que ça a bourgeonné, on les laisse à l'air.
Aujourd'hui, vous mettez quelque chose sur cette plaie? Vous le protégez avec un pansement, quelque chose?
Non. J'attendais d'abord la solution.
Alors, en attendant, déjà maintenant, nettoyez à l'eau, au savon, et si vous avez de la flamazine, en attendant d'aller voir le docteur, mettez de la flamazine dessus.
Et ça veut dire qu'il faut mettre un pansement quand même, docteur Diop?
Si mais juste de la flamazine, non.
Ça va couvrir.
Ou si jamais il fait des choses, parce que je sais pas, oui, si c'est la hanche, après avec le pantalon, tout ça, ça va être compliqué, dans ce cas-là, il peut mettre un pansement.
Pour éviter le frottement avec le tissu
Mais allez consulter quand même, mais en tout cas, en attendant, faites ça.
Voilà, Gaïtsef. Bonne journée à Braza. On prend un autre auditeur. On part pour la Guinée, pour Conakry, avec Ibrahima en ligne avec nous. Bonjour, Ibrahima.
Bonjour, docteur, et à toute l'équipe de Priorité Santé.
Bonjour.
Bonjour à vous, on vous écoute.
Oui, en fait, je souffre de douleurs musculaires, là, de tendons, depuis à bas âge. Et ça persiste jusqu'à là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Des fois, même des enflements aux pieds, aux mains, à la poitrine, à la tête. Je suis allé me consulter à l'hôpital. On m'a dit que je souffre de rhumatisme articulaire aigu. Mais mon inquiétude est qu'à chaque fois, on me prescrit les mêmes produits. Des injections du clofénac, de la benzatine, en injection à prendre une fois par semaine, des comprimés Clipal, du Filco paracétamol, de la pommade Voltaren. Mais au fait, ceci calme les douleurs juste pour un temps. Mais après quelques mois ou années, ça persiste encore, ça reprend encore. Maintenant, j'ai envie de savoir quels sont les aliments dont je dois éviter et qu'est-ce que je dois manger régulièrement pour rester en forme. Et j'aimerais savoir est-ce que cette maladie guérit définitivement avec un traitement, si c'est possible. Et ma dernière question est de savoir est-ce que c'est bon de faire le sport? Si oui, comment dois-je procéder?
Alors, plusieurs questions sur le caractère chronique de cette affection dont souffre Ibrahima. Il a cité ses médicaments. Il a envie que ça aille mieux. Donc, est-ce qu'il y a des moyens par l'alimentation pour améliorer les choses et par l'activité physique? Alors, docteur Massamba Sassou Ndiop.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà le mécanisme. C'est-à-dire que ça veut dire que dans votre enfance, vous avez eu des angines à streptocoque. Donc, vous savez, les angines, où souvent, c'est avec des gros points blancs. Et là, par exemple, c'est typiquement la pathologie, à la différence d'une angine virale, où il faut avoir des antibiotiques, impérativement. Et comme il n'a pas eu d'antibiotiques, son corps a fabriqué des anticorps pour tuer le streptocoque. Mais le problème, c'est que ces anticorps-là, une fois qu'il n'y a plus de bactéries, bah, eux, ils sont là. Et ils se disent, bah, moi, je vais travailler, je vais continuer à travailler. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont les mêmes sites de fixation, aussi bien sur le germe que sur les articulations, le cœur et le rein. Donc, ils peuvent donner des problèmes de valve cardiaque, et je pense qu'il faut qu'il fasse une échographie cardiaque. Il faut voir s'il n'a pas un souffle. Parce que ça, c'est une autre complication qu'il pourrait avoir dans l'avenir. Je dis bien dans l'avenir, hein, c'est très important. Il faut donc qu'il ait un suivi cardiologique. Le suivi rénal, s'il avait dû l'avoir, il aurait déjà eu le problème. Donc, le problème de rein. Et l'autre problème, c'est l'articulation. Donc, ça veut dire que les anticorps ont attaqué, ont digéré, ont mangé, entre guillemets, une partie de ces articulations, comme ils peuvent manger la valve cardiaque ou le rein. Ils attaquent. Alors, le traitement, avant tout, c'est pour faire diminuer ce qu'on appelle ces ASLO, donc ces anticorps, c'est de donner un antibiotique sur une très longue période. Je ne sais pas s'il a eu ce traitement-là. Est-ce que vous avez eu les antibiotiques sur une très longue période, plusieurs mois?
Normalement, c'est en année. Pas plusieurs mois, hein, quelques semaines, disons.
Ouais, alors, la première des choses, essayez d'aller voir quelqu'un, un médecin interniste, si possible, qui va vous donner, de vérifier, il faut vous faire un taux, vérifier votre taux d'ASLO dans le sang, c'est une prise de sang qui coûte pas cher, hein, pour voir est-ce qu'ils sont, les ASLO sont élevés, et s'ils sont élevés, il faut vous mettre, parce que du coup, sinon, ça va s'entretenir, hein, et ça va déjà traiter la cause, c'est la première chose la plus importante. Est-ce que vous avez des ASLO et le traitement antibiotique, le temps qu'il faut, et on les suit, hein, jusqu'à ce qu'ils chutent, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et là, à ce moment-là, vous avez traité la cause.
Juste docteur, oui. Si Ibrahima va voir son médecin, il va le voir en disant j'ai un rhumatisme, il faut vérifier si...
Est-ce que c'est possible de tester mes ASLO?
Tout simplement, A-S-L-O. Donc c'est ça, c'est la question à poser.
Antistreptolysine, voilà. Donc c'est tout, hein. Juste, il demande, parce que selon le taux, on saura est-ce qu'on doit ou non le mettre sous antibiotique encore.
Mais surtout, ne pas prendre des antibiotiques sans l'avoir vérifié. Non. Hein. D'abord, voir le médecin et faire le test.
Surtout pas. C'est pour ça que je ne donne pas le type d'antibiotique d'ailleurs qu'on doit donner. Parce qu'en fait, en automédication, ça ne servira à rien parce qu'il va le prendre d'une semaine, 15 jours, 3 semaines et puis finalement, ça n'aura pas traité le problème. Ça, c'est vraiment un traitement long. Après, il y a les conséquences. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Le rhumatisme articulaire aigu. Et là, les anti-inflammatoires, bien sûr, comme il dit, hein, c'est typique, lui passent la crise, mais ne traitent pas la cause.
Pas la cause.
Et par contre, dans tous les cas, alors régime, honnêtement, il n'y a pas de régime particulier, quelque chose d'équilibré, comme toujours en médecine. Hein. Ça, c'est un point de vue général. Mm-hmm. En médecine, prenez un peu de tout, il n'y a pas de problème, et il n'y en aura jamais. Sauf si vous êtes allergique à un produit, voilà. Hein, voilà. Et par contre, le sport, du moment... c'est-à-dire que vous allez jusqu'aux limites, si jamais ça vous fait mal, vous allez jusqu'aux limites de la douleur, vous ne forcez pas. Mais par contre, c'est évident qu'il faut bouger, il ne faut surtout pas vous retrouver complètement alité et à ne pas bouger. Par contre, en poussée, si vous avez une poussée à un moment douloureuse, vous n'en faites pas. Et voilà, et vous prenez des antalgiques et le temps que ça passe. Et éventuellement anti-inflammatoires. Mais franchement, allez là, vérifiez votre taux pour savoir s'il ne faut pas vous traiter sur un temps beaucoup plus long.
Voilà Ibrahima pour ses conseils. On vous souhaite une bonne journée à Conakry et on va prendre dans quelques instants d'autres auditeurs en ligne.
Priorité santé. RFI.
Priorité santé sur RFI, les questions de santé au quotidien, toujours avec nous le docteur Massamba Sassoun Diop. Dans quelques instants, on reprend nos auditeurs en ligne, bien sûr, mais il y a des questions très différentes, hein, qu'on peut vous poser, des questions même qui peuvent concerner l'apparence physique. Par exemple, comme ces patients qui viennent vous voir pour une question très simple, on parle de patients au masculin, les hommes, question des poils incarnés dans la barbe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Massamba Sassoun Diop, à ce sujet?
Ça marche même d'ailleurs pour les femmes qui se font le maillot. Hein.
Oui. Épilation. Question d'épilation.
Sous les bras. quand vous avez les poils plutôt crépus, mais c'est pas que crépus, donc ils se retournent rapidement. Et en fait, je sais pas si j'ai découvert, mais en tout cas, je me suis aperçu d'une chose, puisqu'en fait, j'étais confronté au même problème, c'est que en mettant d'abord juste lavage, eau et savon simple avant de se raser, ensuite de mettre juste à ce moment-là la solution hydroalcoolique. Donc juste, vous savez, le gel pour se laver les mains, hein, quand on veut se désinfecter, le nouveau gel, mm-hmm. on se le met sur la zone qu'on doit raser.
Ça brûle pas la peau ?
Alors, d'abord, à la phase initiale, là, déjà, ça brûle pas.
Non, mais puisque c'est
fait,
pas...
Voilà. Puis on rase, et ensuite, on en remet, ça pique un peu comme une autre toilette, hein, comme quand on se met, parce que c'est pas plus de 70 degrés, hein, donc... Puis on remet, et bien vous allez voir, je vous demande de me faire parvenir votre expérience après.
Non, j'ai pas de barbe. De...
je parle pas, c'est pas à vous Caroline que je vois, c'était aux auditeurs.
Oui, les auditeurs, n'hésitez pas auditeurs, à nous faire part de vos réactions, voir si ça marche. Alors avant et après.
Avant et après, et bien je peux vous dire depuis, c'est fini.
C'est vrai?
C'est-à-dire que si vous le faites, alors si vous laissez pousser la barbe encore 2, 3 jours, 4 jours, ça peut, il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer, rares, mais ça change complètement. C'est-à-dire que ça vous enlève. Du coup, tout ce qui est le problème de ces cicatrices et tout, ça le règle. Et du coup, pour les maillots, pour sous les bras, pour les femmes et tout, c'est exactement la même chose. Donc en fait, vous vous rasez, et du coup, surtout si vous rasez tous les jours ou tous les deux jours, donc vous vous rasez, vous lavez au savon cette solution hydroalcoolique avant, après le rasage, et vous verrez, c'est étonnamment radical.
Eh ben, on attend les réactions des auditeurs à ce conseil très concret. On poursuit les échanges justement avec les auditeurs. On prend Neri qui est en RCA en Centrafrique à Bangui. Bonjour Neri.
Bonjour, bonjour Caroline, bonjour docteur. Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Moi, je souffre de la sinusite depuis 6 mois. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais allé voir un médecin. Il m'a prescrit 30 comprimés de l'amoxicilline que j'avais suivi son traitement, mais ça ne me soulage pas jusqu'à présent. J'ai des odeurs très agréables au nez en tout moment.
Ouais. Neri qui souffre de sinusite et les antibiotiques n'ont pas marché sur lui.
Alors, sur ça, deux choses. Je pense qu'il a dû vous prescrire ce qu'on fait souvent, par exemple de l'amoxicilline. Déjà, on peut prescrire un antibiotique qui agit, avec de l'acide clavulanique, par exemple, ou une autre, un autre type d'antibiotique. Ça, c'est une première chose, qui est le type d'antibiotique qu'on prescrit, qui est de l'amox plus autre chose, d'accord, qui est bien. Mais ce que je pense là, le plus probablement, c'est que vous avez vos sinus qui sont pleins et qui n'arrivent pas à s'évacuer. Je suis sûr que vous devez avoir à des moments des maux de tête pas possibles. Est-ce que vous en avez ?
Oui, il y en avait.
Oui, voilà. Et donc, le sinus, les sinus sont complètement pleins, il faudrait faire un scanner pour aller voir exactement comment est le sinus, de voir comment est la muqueuse. Il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est parce qu'il y a une composante en plus initiale allergique qui entretient les choses ? Et très probablement là, le stade que vous avez, soit de renforcer avec un antibiotique plus puissant, plus des anti-inflammatoires, parce qu'en fait on met en plus des corticoïdes et des antibiotiques un peu plus élargis, en spectre plus large, et éventuellement peut-être ça sera nécessaire d'aller évacuer, c'est-à-dire qu'en fait avec guillemets on perce le sinus, hein, l'ORL, il va vider, va permettre de vider le sinus en faisant un trou. Quelquefois ça peut être nécessaire, et c'est pas étonnant que vous ayez cette sensation d'odeur très mauvaise là, c'est parce qu'en fait le germe est là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut probablement déjà changer d'antibiotique, mettre un antibiotique plus puissant, et peut-être ce sera nécessaire de vider le sinus chirurgicalement. Voilà.
Neri, est-ce que vous allez retourner voir un médecin justement pour essayer de prendre un nouveau traitement ?
Oui, je le ferai.
Vous allez le faire ? Bon. Eh bien, on vous souhaite bon courage, hein. Très bonne journée à Bangui.
Mais ça se traite très bien.
Ça se traite bien, donc oui. Mais il faut avoir accès au scanner aussi, c'est pas évident.
Sinon, déjà de changer d'antibiotique en attendant, s'il n'y a pas le scanner.
Comme première réponse. On va partir pour le Rwanda, où l'on retrouve Bosco, qui est dans la ville de Kibungo. Bonjour Bosco.
Bonjour madame.
On vous écoute, allez-y Bosco.
Bien, je suis un fidèle auditeur de Priorité Santé depuis 36 ans, à l'époque de Colette Berthoud.
Eh bien, on vous en remercie.
Et ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui touche à la santé.
Mm-hmm.
Mais alors, j'ai trois petites questions.
Allez-y.
La première, c'est ma fille de 14 ans, elle a un saignement du nez d'une manière sporadique. Alors, je disais au standard que j'ai consulté un ORL, mais je rectifie. J'ai plutôt lu dans un livre qui s'intitule « J'élève mon enfant » et on disait pour des petits problèmes de santé, quand il y a un saignement du nez, on fait asseoir la personne et faire un pincement du nez, regarder au plafond et ça résout le problème et avec l'âge, ça va progressivement disparaître. J'ai essayé de le faire, ça marche, mais je me disais que peut-être je peux poser la question au docteur pour savoir s'il n'y a rien d'autre qui se cache derrière. Deuxième petite question, pourquoi les anti-inflammatoires sont-ils contre-indiqués près de rougeole? Dernière question, est-ce qu'il existe un traitement viral en dehors de la vaccination, de la sérothérapie, parce qu'il y a des prescriptions souvent en cas de rougeole, en cas de VIH, alors qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement antiviral. Voilà, j'ai terminé.
Alors, des questions nombreuses et variées. On va commencer par le début,
oui,
par le plus bénin, le saignement de nez.
Le saignement de nez, alors, c'est quand même... attention, l'attitude à avoir, c'est d'abord... et ça pourrait vous paraître bizarre, il faut d'abord se moucher. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un petit caillot à l'intérieur du nez, ce caillot-là entretient, il y a des substances anticoagulantes à leur bord, et ça entretient le saignement. Donc, la première des choses à faire, lorsque on a un saignement de nez, on se mouche d'abord, puis on comprime.
D'accord.
Pourquoi on comprime? Encore une fois, il faut toujours comprendre la cause en médecine pour pouvoir savoir pourquoi on le fait. C'est parce qu'on a ce qu'on appelle la tache vasculaire qui est juste à l'arrière de la base du nez. C'est des vaisseaux, c'est un vaisseau qui est affleurant et qui se met à saigner. Soit on a des anticoagulants ou on prend des antiagrégants plaquettaires, par exemple, c'est un élément favorisant. Mais il y a des gens qui ont la tache vasculaire qui affleure et qui donc, dès que la température monte, dès qu'ils vont s'énerver, dès qu'ils vont faire du sport et tout, peuvent saigner. Donc déjà, on doit se moucher. On appuie directement dessus, du côté de la narine, éventuellement même avec quelque chose de froid, pour vasoconstricter cette tache vasculaire. Et on ne se met pas la tête en haut, parce qu'en fait le problème c'est qu'on va se mettre à avaler du sang, et après on risque de faire, parce que c'est très indigeste, on risque de le vomir, et on va peut-être croire que la personne a ce qu'on appelle une hématémèse, c'est-à-dire en fait un vomissement de sang dont on ne sait plus trop d'où il vient. Donc attention, on met la tête, on se penche en avant, on s'assoit et on appuie directement dessus, aussi simple que ça. En ce qui concerne la rougeole, la première question c'était... Il y a la vaccination. Alors, ce qui est sûr, c'est que, voilà, on vaccine contre la rougeole, oui. Mais il y avait par contre...
Sur les anti-inflammatoires utilisés en même temps.
Surtout pas, tout simplement, parce que c'est viral. Et que, du coup, l'anti-inflammatoire permet bloque l'inflammation, qui est la meilleure lutte contre le virus. La troisième chose, pourquoi on donne des traitements? Alors, effectivement, on pourrait croire qu'il n'y a rien qui traite les virus, bah si. Par exemple, sur le sida, c'est typique. Sur le HIV, on a les rétroviraux. Donc, il y a une politique de traitement pour les virus, mais il y a certains virus. Par exemple, contre la grippe, on a trouvé des choses intermédiaires qui marchent plus ou moins. Là, sur Ebola, il semble qu'il y ait des nouvelles molécules qui sont intéressantes. Si, on a des molécules antivirales qui sont plus complexes à trouver que les antibiotiques, sur les bactéries, mais si. Et d'autre part, il y a une autre chose, c'est que quelquefois, ça peut être ça, on donne des antibiotiques dans des infections virales parce qu'il y a des surinfections bactériennes. Donc attention aussi à ça. Par exemple, vous mettez à cracher vert alors que vous avez fait une rougeole ou une grippe, ben en fait, là, on est en train de traiter la bactérie qui a profité du virus pour se développer. Voilà
pour ces réponses. Bosco, vous avez autre chose à demander ?
Non, je suis satisfaite, madame. Je vous remercie.
Oui, c'était très complet. Merci. On vous remercie beaucoup, Bosco. On prend un dernier auditeur. C'est une femme, c'est Fabrice. Elle est au Tchad. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Fabrice.
Ok, merci. Bon, en fait, moi, j'ai un problème de démangeaison qui a daté depuis plus de 5 mois. Et ce mal me commence comme si je fais sévère exactement. Et là, sur mon corps, des gonds qui ressemblent à une piqûre, comme une fourmi, une pique, par exemple. J'ai essayé de faire une automédication avec certains médicaments, les exemple de chlorpyramide, du mestizan, du vermont. Et parfois, j'arrive à aussi prendre de l'ail, on me dit, en avalant. Bon, mais j'applique tout cela et vraiment, je n'ai pas vu un grand changement. Alors, je demande quel autre conseil je peux aussi en prendre en compte pour pouvoir trouver une bonne santé par rapport à ce problème.
Alors, cette question de Fabrice, la ligne est pas très bonne, donc je vais résumer, hein, des démangeaisons et a priori elle a pris différents produits en automédication, j'ai bien entendu de l'ail, c'est ça Fabrice?
Entre autres, oui.
Entre autres, hein, que vous avez pris, mais vous ne connaissez pas l'origine précise de ces boutons. Alors, docteur Sassoun Diop, c'est bien le problème.
Je vais vous appeler docteur Caroline Paré. Parce que...
non, pas du tout. Moi, je suis journaliste, je reste à ma place. Mais c'est vrai que quand on a un bouton, on se demande d'où ça vient, tout simplement.
Encore une fois, de toute façon, en médecine, dans tous les cas, il faut savoir d'où ça vient pour savoir comment le traiter. Je dirais rapidement, en termes de causes possibles, soit il faudrait voir, par exemple, dans la literie. Est-ce qu'il n'y a pas des acariens? Est-ce qu'il n'y a pas des puces? Est-ce qu'il n'y a pas des puces de lit? Est-ce qu'il n'y a pas des poux? Enfin, donc il y a un certain nombre de parasites qui peuvent exister et qui peuvent être dans votre literie et qui peuvent entraîner du coup chaque soir le fait que vous fassiez piquer. Et puis il y a une autre chose, c'est simplement, est-ce que vous ne faites pas une allergie à quelque chose? Donc il faut essayer de tout regarder, de voir si vous ne faites pas une allergie à un produit quelconque qui pourrait expliquer cela.
Et Fabrice, pour le coup, là au téléphone, on ne peut vraiment pas vous aider parce que tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on ne sait pas la cause, eh bien c'est difficile.
Une vraie enquête policière.
Voilà, Fabrice, très bonne journée au Tchad. Avant de nous quitter, il nous reste très peu d'temps, docteur Diop, mais vous vouliez nous parler d'une étude que vous avez faite, étude importante, hein, sur le mouvement général qu'on observe en Afrique subsaharienne. C'est bien la poussée des maladies chroniques, c'est cela?
En fait... dans le BMJ, British Medical Journal, de fin août, début septembre, en fait, on a pu publier avec l'Inserm, avec Xavier Jouven et avec Bamba Gueye, une étude qui sur 50 000 de nos patients et qui montre sur 10 ans l'évolution progressive et on voit le croisement en 2012 des courbes entre les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles et tout le monde le ressentait, tout le monde, mais il n'y avait pas d'études sur autant de patients. Et donc, on le voit. Alors, les tranches d'âge sont décalées de 10 ans. Chez les femmes, c'est 40-50 ans. Chez les hommes, c'est 50-60 ans. Mais ça y est, on voit ce problème entre l'hypertension et le diabète par rapport à l'ensemble des pathologies infectieuses. Donc, effectivement, et là, c'est la première grande étude qui montre cela.
On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Dr Massamba Sassoun Diop. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins Dakar. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de l'alcoolisme, à sortir de la dépendance, témoignages et toutes vos questions au 33 84 22 75 75.
C'était
à demain.
Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.